Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire sur les ondes de CHIZ 94.3. Aujourd'hui, on a le grand bonheur de recevoir Alexandre Klein, docteur en philosophie et histoire des sciences, spécialiste de l'histoire de la psychiatrie au Canada francophone. Il est aussi coordonnateur de l'unité de recherche sur l'histoire du nursing à l'Université d'Ottawa. Et il est ici aujourd'hui pour nous parler de, du livre qu'il a co-dirigé, comme c'est ça qu'on dit?
Co-dirigé,
qui s'intitule « La fin de l'asile, point d'interrogation, histoire de la déshospitalisation psychiatrique dans l'espace francophone au 20e siècle ». Je m'excuse, c'est sûr que je vais massacrer la déshospitalisation quelques fois pendant l'émission, mais on comprend que c'est ça le sujet et on va en apprendre davantage sur ce sujet dans la prochaine heure. Bonjour, M. Klein, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup de m'inviter.
Ça me fait vraiment plaisir et aujourd'hui à l'animation, je suis en compagnie de Myriam. Bonjour Myriam.
Bonsoir Julie.
Donc, avant de commencer, on se demande toujours quels sont les processus de création des invités qu'on reçoit. Et notre première question concerne souvent l'intérêt que les chercheurs, chercheuses ont eu pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Mais là, vu que c'est un peu différent, c'est la co-direction d'un ouvrage, on se demandait comment est venue l'idée de réaliser ce livre.
En fait, c'est un projet de recherche qui part d'un peu loin. On a eu un financement de recherche pour travailler sur cette question de la désinstitutionnalisation. Donc, comment on sort des institutions psychiatriques au XXe siècle avec ma collègue Marie-Claude Tifot et d'autres collègues, Karine Aubin aussi également. Et donc, j'ai organisé en 2015, je pense, un petit symposium pour essayer de rassembler des gens en dehors du Québec et en dehors du Canada francophone pour essayer de voir comment ça se passait chez eux. Cette question-là de la désinstitutionnalisation, donc des gens en Belgique, des gens en France, des gens en Suisse, des gens dans le reste de la francophonie. Et il s'est passé quelque chose pendant cette rencontre-là. Et je me suis dit que c'était un beau moment et qu'il fallait peut-être aller plus loin puis le fixer sur le papier. Donc c'est là qu'est née l'idée de l'ouvrage. Puis on ne savait pas encore que ça allait être plus massif que ça et plus long que ça à produire, mais finalement, on est arrivé à avoir un bel ouvrage à la fin.
Puis justement, les autres directeurs, directrices de l'ouvrage, pourriez-vous nous les présenter?
Oui, donc j'ai co-dirigé ça avec Marie-Claude Tifot, qui est historienne spécialisée dans le milieu asilaire à l'Université d'Ottawa. Et Hervé Guimain, donc, qui est professeur d'histoire à l'Université du Mans en France et qui est aussi un historien de la psychiatrie.
Ben avant de continuer, après ces présentations faites, on va passer tout de suite avec une première chanson. En fait, aujourd'hui, vous allez remarquer, vous savez qu'on aime ça faire ça à 3600. Toutes les pièces musicales concernent un thème qui est relié au sujet de l'émission. Aujourd'hui, on parle de la folie qui peut avoir plusieurs formes ou de la maladie mentale. Et pour commencer, on y va avec une chanson célèbre de Patsy Cline qui a été surtout popularisée, disons, à sa sortie, mais au Québec, elle a repris de la vigueur avec la sortie du film Crazy au début des années 2000.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I? Thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Retour à 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Klein qui nous parle de l'histoire de la déshospitalisation psychiatrique dans l'espace francophone au 20e siècle. Et on en était à parler de la création de l'ouvrage. Il restait une question à ce sujet. En fait, de quel type de texte l'ouvrage est composé?
Donc, c'est un ouvrage assez classique, un collectif assez classique. Donc, on a des chapitres qui se suivent, écrits par des personnes différentes. Si ce n'est qu'on a voulu donner un peu de corps à tout ça et pas faire simplement un agrégat de papier. Donc, on s'est organisé en parties à la fois thématiques et historiques, chronologiques, on va dire comme ça. Donc, on a des articles d'une douzaine, treize. Peut-être si le chiffre est exact, je ne l'ai plus en tête exactement, de collaborateurs et de collaboratrices donc qui viennent tant du Canada francophone, du Québec, que de Suisse, de Belgique et de France.
Puis en fait, on le dit depuis le début, et c'est un mot difficile à prononcer, ouais. Qu'est-ce que la déshospitalisation? Comment on l'entend de manière générale?
Alors, ça va m'amener à parler du livre plus en avant, c'est que la déshospitalisation, c'est le fait de sortir de l'hôpital, d'être déshospitalisé, donc de sortir de l'hôpital. Et tout l'argument de notre livre, c'est de dire que l'histoire de la désinstitutionnalisation, donc ce moment historique où on a dit, bon, bah, il faut sortir les gens des asiles psychiatriques, il faut les prendre en charge autrement que dans l'asile parce que ça ne fonctionne pas, il y en a trop dans l'asile, on n'a pas le temps de les prendre correctement en charge, puis ils font juste rester là, puis ils s'en sortent jamais vraiment. Ce moment de la désinstitutionnalisation, vous voyez, même moi j'ai encore de la misère à le dire. En fait, nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce n'est pas une désinstitutionnalisation. C'est simplement une déshospitalisation. Ce qu'on veut dire par là, c'est que oui, on a sorti des malades des grands hôpitaux psychiatriques, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont quitté les institutions. Parce que oui, ils sont sortis des grands hôpitaux, mais ils sont allés vers des foyers, ils sont allés vers des accueils de jour, ils sont allés vers d'autres types d'institutions, et ils sont restés dans ce même modèle institutionnel et institutionnalisé qui marque les vies des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des troubles de santé mentaux. Et c'était ça qu'on voulait mettre en avant en utilisant le terme déshospitalisation, c'était essayer de dire il faut écrire une autre histoire de la sortie de l'asile.
Puis justement, peut-être pour mettre en contexte, comment fonctionnent les systèmes d'asile à la fin du 19e siècle?
Au Québec, ils arrivent un petit peu plus tard, mais à la fin du 19e siècle, il y a un certain nombre de grands asiles qui sont ouverts. L'idée générale de ces asiles, c'est de dire au 19e siècle, c'est une idée qui vient de l'Europe, hein, assez aisément, c'est de dire, bon, il faut sortir les malades du contexte familial et de leur environnement quotidien qui les rend malades. Donc on va les sortir de ce milieu-là, puis on va les mettre dans un milieu particulier, plus apte au traitement, qui est celui de l'asile. Et donc, on va créer au cours du 19e siècle, un peu partout dans les pays européens, puis à la fin du 19e siècle au Québec, des institutions dans lesquelles on va mettre les gens qui ont des troubles de santé mentale.
Puis qui, dans les institutions, qui sont les acteurs, actrices, qui prend en charge, en fait, les malades mentaux, là, pour les nommer c'est plus compliqué que ça,
de manière
générale, à ce moment-là, comment ça fonctionne, ce système?
Au Québec, et dans une partie du Canada français, c'est des religieuses qui s'occupent des grands asiles. On a, et c'est pas seulement pour la santé mentale, mais pour la santé en général, c'est quand même les religieuses qui ont parti les grandes institutions de soins au Québec. C'est le cas aussi de la santé mentale du côté francophone, parce que l'asile anglophone québécois, donc qui s'est appelé le Douglas, en fait l'hôpital de Verdun, lui a dès le début été construit en opposition au modèle francophone et donc il a été géré différemment dès le départ. Donc en un sens, c'est une exception par rapport au reste des institutions, mais les grandes institutions comme Saint-Jean-de-Dieu à Montréal ou Saint-Michel-Archange à Québec sont gérées par des congrégations religieuses.
Est-ce qu'il y a une certaine conception peut-être de la maladie mentale ou du malade qui est présente puis peut-être qui va évoluer à ce moment-là?
Oui, à toutes les époques, il y a des représentations de la maladie. C'est sûr que le fait que ce soit des communautés religieuses qui gèrent les hôpitaux, ça marque un petit peu la conception de la maladie mentale. Pour autant, contrairement à ce qu'on a dit longtemps, les religieuses n'attendaient pas du ciel que les malades soient guéris en les regardant dans les yeux. Bien au contraire, elles avaient des techniques, elles avaient des savoirs, elles se formaient, puis elles allaient appliquer des soins particuliers et scientifiques à ces malades-là. Donc à la fin du 19e siècle, on est dans une conception, si on veut faire le détail, peut-être plus... qu'on appelle de la dégénérescence. On pense que la maladie mentale, c'est le fait d'une dégénérescence qui est potentiellement héréditaire, et donc ça permet aussi de dire que les Canadiens français ou les Irlandais ou les plus pauvres appartiennent facilement à ce type de population parce qu'ils seraient dégénérescents. Mais donc on a cette conception de la dégénérescence, et c'est aussi cette idée, c'est aussi pour ça qu'on va sortir les gens des familles, parce qu'on va les mettre dans un autre environnement pour essayer de traiter ça. Et évidemment, cette conception-là de la dégénérescence va peut-être évoluer tranquillement, et on va peut-être moins parler de folie. Peut-être qu'il y a une période où on a parlé de folie, puis ensuite d'aliénation, puis ensuite peut-être de maladie mentale. Puis après, arrivant avec les années 60-70, on a commencé à parler de santé mentale. Puis aujourd'hui, on essaye de trouver des vocables pour exprimer le trouble et le mal-être dans lesquels sont les gens.
Puis... J'imagine qu'il va y avoir un tournant. Si vous avez ciblé le 20e siècle pour parler de la déshospitalisation, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a un point tournant ou c'est un processus lent? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de parler de déshospitalisation pour le 20e siècle?
Alors, deux choses. La première, c'est que le 19e siècle est le siècle de l'institutionnalisation. C'est le siècle dans lequel on fait rentrer les malades dans des institutions où la folie en général va être gérée par l'enfermement, par la mise en institution. Donc de fait, le 19e étant l'institution, le 20e siècle, en réponse peut-être à ce 19e siècle de l'enfermement, va être celui de la désinstitutionnalisation. Donc ça, ce serait la première réponse. Mais la deuxième, c'est aussi que dans la majorité des grands pays occidentaux, dans les années 60, à peu près dans tous les pays, à peu près dans les mêmes années, on voit le même mouvement, c'est-à-dire de dire il faut qu'on change la prise en charge de la maladie mentale, elle ne peut plus passer uniquement par l'asile, et donc il faut faire sortir toutes ces populations des asiles. Alors pas forcément les violents psychotiques dont on a l'image quand on pense au fou qui va nous sauter dessus dans le coin de la rue, mais toutes ces personnes qui ont des maladies sur le long terme, qui sont chroniques, qui sortiront jamais vraiment de leur maladie, mais qui en même temps font pas de mal à personne, sont calmes dans un petit coin. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les garder là, alors que peut-être on pourrait les retourner vers leur famille, dans la communauté? Et donc on voit, dans différents pays, on voit en Italie passer des lois pour fermer les asiles, on voit en Angleterre aussi des démarches pour fermer les asiles, et on voit au Québec des lois qui sont passées pour changer les politiques de prise en charge de la santé mentale.
Puis est-ce qu'il y a aussi des questions de financement qui entrent en jeu? Il me semble que de grosses institutions comme ça, ça devait être, assez, sans entrer dans les détails non plus, mais assez difficile à gérer au niveau financier. Pendant le 20e siècle, on se met à repenser aussi le système d'assistance puis le système hospitalier.
Oui, c'est sûr que la question financière rentre en jeu de deux manières. C'est que dans les institutions francophones au Québec, les religieuses étaient en charge. Donc à la fois, c'était un avantage parce que c'était du travail pas très cher payé. Et en même temps, elles recevaient de l'argent du gouvernement, un petit per diem pour chaque malade, pour s'en occuper chaque jour. Et ça, en effet, il y a eu des fluctuations sur cet apport du gouvernement et qui a souvent été trop peu important. Alors, à la fois, il y avait des enjeux, en effet, d'essayer de sortir les gens parce que ça allait peut-être coûter moins cher, mais je pense que les gens qui dans les années 60, dans les années 50, dans les années 60, ont milité pour ça, le faisaient moins pour des questions d'argent que pour des questions de dignité, pour des questions de prise en charge humaine de la santé mentale. Parce qu'au final, l'accompagnement sur le long cours d'une personne en dehors de l'institution, elle coûte aussi de l'argent. Et les gens, je pense, en avaient conscience dès les années 60.
Puis est-ce qu'il y a quand même peut-être des débats qui vont surgir de cette idée-là, en fait, là, ou est-ce qu'il y a un consensus parmi tout le monde, en fait, là, les médecins peut-être, ou différents membres qui sont liés au système de la santé, disons?
Autour de la désinstitutionnalisation? Ouais. Oui, il y a quand même un consensus. Alors, peut-être pas du côté de la population, par exemple. Mm-hmm. Alors peut-être qu'il y a une peur de la population. Je sais que dans l'ouvrage, il y a ma collègue Marcella Negu qui a travaillé sur la réception médiatique de la désinstitutionnalisation. Puis on voit que dans les journaux québécois, ça attise les peurs un peu. L'idée qu'on ouvre les portes des asiles, qu'on fasse d'un coup sortir tous les fous. Vous voyez, c'est tout l'imaginaire du crime et de la folie qui se réactive. Et là, les gens se disent, mon Dieu, on va renvoyer des gens instables dans leur communauté, ça va être horrible. Mais à part ces gens-là, la communauté scientifique, puis les travailleurs de la santé, infirmières, médecins, psychologues et autres, sont assez d'accord là-dessus. En fait, c'est un peu un des constats qu'on a fait aussi en faisant ce travail-là autour de l'ouvrage, c'est qu'on voit que dès que l'asile est mis en place, que ce soit au Québec ou ailleurs, il y a déjà des gens qui se disent, bon, comment on va faire pour les faire sortir? Comment on va faire pour les réintégrer dans la communauté? Fait que, quelque part, la question de la désinstitutionnalisation, elle est tout au long de la question de l'institutionnalisation. Les deux sont liés. On est toujours en train de se demander comment on va prendre les gens en charge, comment on va le mieux possible prendre les gens en charge, et ça passe toujours par du dedans, du dehors de l'institution, et essayer de modérer les deux, de jamais s'enfermer dans un système ou dans un autre, de dire on enferme tout le monde tout le temps, ou on n'enferme personne et jamais. Voilà.
C'est vraiment intéressant de voir la complexité du système, puis aussi pour le Québec et le Canada, entre autres. Il y a une autre question qui se pose. Pourquoi étudier les espaces francophones? Est-ce qu'il y a un modèle francophone? Ben, vous l'avez mentionné plus tôt. Comment le modèle francophone est-il un modèle et comment se distingue-t-il d'autres modèles qu'on voit en Occident au même moment?
Alors, il n'y a pas vraiment de modèle francophone. Alors, au Québec, en effet, il y a des institutions qui fonctionnent. Les institutions francophones fonctionnent sur une modalité différente de la seule grande institution anglophone. Mais nous, l'enjeu de notre travail, c'était moins de ce côté-là que du côté de l'historiographie. Simplement, on a constaté que l'histoire francophone de la psychiatrie, il y avait très très peu de travaux qui s'étaient portés sur cette période de la désinstitutionnalisation. Contrairement peut-être à l'histoire anglophone de la psychiatrie qui commençait, et qui a commencé plusieurs années déjà, à plus s'y intéresser. Et donc l'idée, c'était de dire, ok, est-ce que... En effet, on va aller voir s'il y a un modèle francophone spécifique, ou en tout cas, on va inviter les historiens francophones, les historiens dans la francophonie qui travaillent sur la psychiatrie, à se pencher sur ce moment-là. Et le constat, c'est que, c'est un constat un petit peu attendu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de modèle francophone comme il n'y a pas vraiment de francophonie unitaire. Et donc, évidemment, les conditions sont différentes. Donc, on retrouve des similitudes. On voit en Belgique, où les communautés religieuses étaient très fortes, il y a certaines similitudes avec le Québec, où les communautés religieuses étaient très fortes. On voit des parallèles entre la France, qui va mettre en place une politique de secteur, donc une prise en charge psychiatrique sur un territoire en dehors de l'asile et non pas dans une institution. On voit des parallèles avec le Québec, où le Québec va aussi mettre en place ce genre de choses à partir des années 60. Donc c'est plus des parallèles qu'on peut mettre en place, puis des comparaisons qui sont intéressantes au final dans cet ouvrage.
Est-ce qu'il y a des relations entre les acteurs, actrices de ce milieu-là, entre le Québec et la France, par exemple, des formations qui se donnent à un endroit, pas à l'autre, qui crée une communauté de spécialistes dans la francophonie à ce moment-là?
Oui. Alors, on l'aborde assez peu dans l'ouvrage en tant que tel, mais en effet, il y a beaucoup de liens, parce que déjà, on est dans une période, donc la désinstitutionnalisation, on compte que c'est à peu près la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70, sur une longue période, avec le cœur dans les années 60. Mais c'est une période aussi où la science en général, et la science psychiatrique en particulier, se mondialise, s'universalise. Donc les gens lisent les mêmes revues, les études se font à gauche, à droite dans le monde, et donc il y a beaucoup plus de discussions à ce niveau-là. Mais on voit aussi des échanges d'idées et des transferts d'idées, notamment dans le cas du Québec, mais c'est un peu une habitude au Québec aussi d'aller chercher à la fois au sud, aux États-Unis, puis en Europe des idées, de mélanger ça et de faire quelque chose avec.
Et puis, étant donné que les asiles en fait, psychiatriques existent encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut justement penser que toute la déshospitalisation, est-ce que c'est plutôt un idéal en fait, qui a été porté mais qui n'a pas été atteint ou...
Alors, les asiles n'existent pas vraiment aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas en parler comme ça. Il y a des gens qui vont se sentir insultés. Non, les asiles n'existent plus. Puis, déjà, le terme d'asile n'existe plus. Au Québec, l'asile de Saint-Jean-de-Dieu, par exemple, quand il brûle au début du XXe siècle, il change son nom. Quand il se reconstruit pour être plus moderne, il s'appelle l'hôpital. En France, c'est 1937, je pense, où on abandonne le terme d'asile pour parler d'hôpitaux psychiatriques. Parce que le terme d'asile porte une connotation assez négative. Et aujourd'hui, il n'y a plus des politiques d'enfermement massives comme pouvait être celle de l'asile au XIXe siècle. Donc, c'est difficile de parler d'asile. Néanmoins, il existe toujours des hôpitaux psychiatriques dans lesquels des gens sont accueillis, peut-être internés parfois, contre leur volonté, sur du long terme. Ça, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que la majorité des gens aujourd'hui qui souffrent de troubles de santé mentaux, ils sont pris en charge, quand ils sont pris en charge, parce qu'il y a beaucoup de difficultés d'accès aux soins, en dehors de l'hôpital, de manière extra-hospitalière. Donc, à la fois... C'est un idéal vers lequel on a tendu dans le sens où on a avancé vers des pratiques de déshospitalisation. Donc oui, c'est un idéal. Et on ne l'atteindra jamais parce qu'encore une fois, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Ce n'est pas soit on met tout le monde en prison. Vous voyez, j'allais dire en prison. Ça révèle bien ce qu'on pouvait penser de l'asile. Dans une institution fermée, soit on met tout le monde dehors. Donc l'idée, c'était de trouver des modalités de prise en charge des gens qui soient équilibrées et qui répondent à leurs problématiques particulières. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris en charge en dehors de l'asile. Donc, en un sens, on pourrait dire oui, la désinstitutionnalisation ou la déshospitalisation a réussi. En même temps, on constate aussi qu'il y a beaucoup et il y a une augmentation du nombre d'enfermements sous contrainte, du nombre d'enfermements non volontaires sur signature d'autrui. Donc, on voit aussi une tendance au réenfermement physique, mais aussi chimique, par le biais des molécules, par le biais des médicaments. Donc, ça, c'est peut-être une des réalités qui nous montre que la volonté de désinstitutionnaliser n'a pas été vraiment au bout. Parce que, pour le dire clairement et le résumer, l'idée c'était de dire, on va sortir les gens des asiles, mais on va les accompagner. On va les accompagner, non pas simplement à prendre en charge leur maladie, mais aussi à se réinsérer dans la société, à trouver un travail, à revivre peut-être avec leur famille, avec qui ça marchait plus vraiment, parce qu'ils avaient des crises, parce que c'était compliqué. Or, cette partie-là de la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire pas seulement la déshospitalisation, pas seulement sortir les gens des hôpitaux, mais les accompagner dans leur retour à la communauté, ça n'a pas vraiment marché parce qu'on n'y a jamais vraiment mis les moyens.
Mais justement, est-ce que... Ma prochaine question rejoint celle-là, mais je ne veux pas empiéter dessus non plus, mais en fait, comment est-ce qu'on a pensé au moment où on a commencé à mettre en œuvre la déshospitalisation, quelles étaient les alternatives qui s'offraient, puis comment ont-elles évolué jusqu'aujourd'hui? Là, je sais qu'on pourrait écrire un autre livre là-dessus,
ouais.
Mais peut-être un petit portrait de... Je ne sais pas s'il y a des grandes étapes qu'on peut déceler ou ça a pas mal été toujours la même philosophie de réinsertion sociale, comme vous l'avez dit, comme on peut l'observer aujourd'hui.
Oui, ben, la question est difficile.
Oui, en la disant, je me suis dit aussi que...
Ce que vous voulez savoir, c'est les outils qui étaient mis à la disposition des gens?
Ou des grandes écoles de pensée, des débats. Comment est-ce qu'on a mis en œuvre cette déshospitalisation-là? Qu'est-ce qui attendait les patients? Est-ce qu'il y a eu des grandes phases de remise en question, etc.?
Oui, alors... Grosso modo, oui. Alors, la réponse, c'est oui. Grosso modo, au Québec, on distingue plusieurs phases de désinstitutionnalisation. On va dire qu'il y a la première phase, donc c'est vraiment les années 60, 70, où on se dit, bon, on va essayer de sortir au maximum les gens des hôpitaux, puis les accompagner, puis les nouvelles personnes qui arrivent dans le système de santé mentale ou qui doivent être pris en charge de santé mentale, on va essayer de majoritairement les prendre en charge en dehors de l'hôpital, donc soit à l'hôpital général, soit dans des cliniques externes rattachées à l'hôpital psychiatrique, soit directement dans des foyers d'accueil ou dans des missions ou dans des consultations psychiatriques en ville. Donc ça, c'était l'idée puis l'idéal qui a essayé de se mettre en place dans les années 70. Ensuite, on a peut-être viré vers une politique plus de secteur, donc où on a vraiment organisé le territoire québécois autour d'un certain nombre de secteurs sur lesquels c'était des équipes de psychiatres, des équipes pluridisciplinaires, incluant un psychiatre ou une psychiatre, mais il n'y en avait pas beaucoup des femmes, qui s'occupaient de tout ce territoire-là. Donc c'était plus les malades qui venaient au lieu de soins, c'était les soignants qui se déplaçaient aussi autour de ça. Puis ça a aussi correspondu à un moment où on s'est rendu compte que ça coûtait cher d'accompagner tous les gens en dehors de l'asile, puis qu'on n'avait pas tant d'argent que ça. Et puis aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu entre les deux, qui est une espèce de troisième phase, qui aussi se marque par beaucoup d'accès en justice, par une judiciarisation beaucoup aussi des cas psychiatriques, par peut-être de la violence aussi qui est marquée sur certaines problématiques de désinstitutionnalisation, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui peut-être mériteraient plus d'attention des soignants, qui mériteraient une meilleure prise en charge, puis qui ne l'ont pas forcément, et qui se retrouvent dans la rue, qui se retrouvent dehors, et puis qui ont des comportements qui ne sont pas forcément adéquats avec leur propre subsistance ou avec la subsistance d'autrui autour d'eux.
C'est une réponse très claire à ma question, très compliquée. Mais là, pour s'en remettre, on va prendre encore une pause musicale et publicitaire cette fois-ci. Vous pourrez entendre la chanson « Beau la folie » de L'Homme pâle, sortie en 2018.
Trois sœurs, pas de frères, heureusement Dieu a créé les amis. Il y a des choses que j'aurais pas voulu comprendre en grandissant. Tout le monde est zinzin dans ma famille, que des embrouilles dans ma famille. J'ai pas vu ma grande sœur depuis 10 ans. Grand-père a détruit ma mère et ma grand-mère avant elle. J'ai jamais eu d'amour pour lui, j'ai toujours fait semblant à Noël. Oh.
grand-mère était loin d'être parfaite, ouais. Mais sans cette famille malsaine, elle serait peut-être jamais morte d'un cancer. Et j'aurais peut-être pu la connaître un peu plus. Oh. Guidé par ses croyances jusqu'au bout du monde pour le sauver naïvement en rentrant. Quand la douane lui a demandé de présenter son identité, elle a souri tout en déchirant ses papiers. Les gens normaux se sont bien dans la machine. Grand-mère n'y a jamais trouvé sa place. Elle marchait nue en criant des mots magiques. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. T'es folle, sans blague. Ma tête est pleine de courants d'air. Mon réveil sonne, y'a que ma flemme qui se rendort. Ce matin, je pars faire le tour du monde avec une fille folle qui fait tous ses choix en mode random. On ira là où on nous dit qu'il y a aucune chance. Là où les murs changent, là où les hurles chantent. Tous les deux victimes de nos pulsions. On fera l'amour sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est beau la folie, putain. J'ai enfin plus peur de m'ennuyer. Cette fille, c'est ma vitamine D. Je l'ai attendue comme juillet. On s'aime et on s'attire. Je viens de comprendre pourquoi on vit des aimants. Mais c'est trop beau pour être vrai, on se détestera forcément. Les gens normaux se sentent bien dans la machine. Grand-mère n'y a jamais trouvé sa place. Elle marchait nue en criant des mots magiques. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. C'est beau la folie, beau la folie.
Tu adores les fromages d'ici? Bien écoute la musique d'ici. Écoute local
avec 6-94-3.
Faut pas travailler trop trop fort.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, d'improvisation, du théâtre, de l'annonce, du cinéma et même du monde qui passe à TV! Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de... gratuit! Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Salut, ici Alex Bayergeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis, dès 13h, synthonisez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Cinéma! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. Le groupe légendaire Green Day est de retour avec leur très anticipé nouvel album Father of All, incluant Fire Ready Aim. Et la chanson titre Father of All. Green Day, le nouvel album Father of All, disponible partout.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, on parle de maladie mentale, on parle de folie, on parle de, en fait, plus précisément, de déshospitalisation psychiatrique au cours du 20e siècle avec Alexandre Klein qui a co-dirigé un ouvrage sur le sujet. Et c'est vraiment fascinant comme monde, on connaît peu ça. Mais là, j'ai des questions pas personnelles. Là. Inquiétez-vous pas, on n'entrera pas dans le personnel. Mais vous êtes, un spécialiste de la question. Donc, j'imagine, je le sais, en fait, que vous avez écrit un chapitre du livre. Quelle est votre contribution personnelle, d'où mon introduction boiteuse, dans ce livre?
Un des textes que j'ai écrit, j'en ai écrit deux, mais celui que j'ai écrit tout seul, en fait, c'est un texte sur un psychiatre qui s'appelle Charles Roberts, qui est un psychiatre terneuvien, puis qui a eu un rôle vraiment important dans la, je mets des guillemets à tout ça, mais ça se voit pas à la radio, la révolution psychiatrique qui s'est passée au Québec. Donc, il y a une grande transformation de la prise en charge psychiatrique au Québec dans les années 60, ce qu'on a appelé la mise en place d'une politique de désinstitutionnalisation. Donc, quand le gouvernement Lesage a décidé de changer la prise en charge, et il a été vraiment actif là-dedans parce qu'il a fait partie de la commission d'enquête qui a mené à cette grande réforme-là, la commission Bédard. Et donc, c'était un personnage très peu connu dans l'historiographie, dans l'histoire. Et en fait, c'est un personnage vraiment intéressant parce que lui, il vient de Terre-Neuve, puis il a travaillé dans l'asile où sa mère avait été internée. Et ouais, l'asile de Saint-Jean, et il l'a complètement réformé, en fait, quand il est rentré dedans. Et c'est un peu comme ça qu'il a été connu. Il a ensuite été employé au fédéral pour travailler sur la gestion de la santé mentale et des politiques de santé mentale au fédéral. Et c'est comme ça que McGill est venu le chercher pour réformer l'asile anglophone de Montréal, donc l'hôpital Verdun, dans les années 40, début 50. Et pareil, il a fait ce travail de réforme et de mise à niveau un peu de l'hôpital psychiatrique pour le rendre plus moderne et puis pour avoir des personnels mieux formés, un meilleur accompagnement. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement provincial du Québec est venu le chercher pour participer à cette commission-là. À la fois parce que c'était l'anglophone de la gang, il y en fallait un, et à la fois parce, en tout cas, c'est toujours comme ça que l'histoire l'a raconté, en disant bon bah il fallait un anglophone, fait qu'on a pris le surintendant anglophone de l'hôpital anglophone. Mais en fait, au-delà de ça, en creusant son histoire, on se rend compte que c'était peut-être le plus compétent des trois, en fait, de la commission, parce que lui avait vraiment contribué activement à différents niveaux provincial et fédéral à la réforme des institutions de santé mentale et à la réforme de la prise en charge de la santé mentale ailleurs. Fait que c'est un parcours vraiment intéressant d'un personnage peu connu au final.
En effet. Puis tantôt, en fait, on a abordé un peu le système des asiles, bon, le fonctionnement des hôpitaux psychiatriques. Maintenant, peut-être, pour aller un peu plus en profondeur dans les institutions, quel type de patients on pouvait trouver? Puis peut-être aussi quelles institutions, en fait, il y avait au Québec, au 19e, début 20e?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait au moins les deux grands principaux asiles francophones, donc Saint-Michel-Archange à Québec et Saint-Jean-de-Dieu à Montréal. Il y avait l'hôpital anglophone de Verdun à Montréal. Et puis, il y avait des institutions privées aussi. Il y avait quelques petites institutions privées qui prenaient en charge des maladies nerveuses, des maladies d'autres types. Alors, on ne peut peut-être pas parler de maladies mentales, mais ça recouvrait ce qu'on appelle aujourd'hui la santé mentale. Donc, ça prenait en charge des gens qui avaient des troubles large de santé mentale à différents niveaux. Après, les populations étaient assez distinctes, c'est-à-dire que dans les petites institutions privées, c'était des gens riches avec pas trop de problèmes, on va le dire comme ça, ou des problèmes qui mettaient pas trop en danger leurs voisins ni eux-mêmes, pour le résumer peut-être un peu vite. Dans les asiles, c'était un peu le tout venant, donc ça dépendait, et d'autant plus avant la désinstitutionnalisation où les gens s'accumulaient un peu, donc on avait autant des psychotiques, donc des gens qui font des crises très importantes, que des névrosés sur le long terme ou des dépressifs sur le long terme, donc des gens qui restaient là 40 ans, 50 ans, un petit peu de manière apathique, sans véritablement poser de troubles ni être pris en charge, comme il y avait des gens qui pouvaient développer des crises très, très importantes. Et toute l'idée de la désinstitutionnalisation aussi, c'est de faire le tri un peu dans cette population-là, qui s'était progressivement accumulée pour le dire un peu sèchement, dans l'asile. Donc c'était une population assez variée, mais c'était très très souvent des gens qui avaient des problèmes soit avec l'ordre public, donc ils se retrouvaient à l'asile parce que simplement la police, d'une manière ou d'une autre, les y avait amenés et que ça avait été décidé qu'ils puissent y rester, ou parce qu'ils avaient des problèmes avec leur famille, et que leur famille n'était plus capable, puis qu'ils venaient les porter à l'asile parce que le mari n'était plus capable de sa femme, pour des bonnes ou des mauvaises raisons parfois, ou les parents des enfants, ou l'inverse. Et donc la famille allait porter les gens à l'asile. Donc c'était des gens qui souvent avaient des problèmes de relations avec les autres, pour le dire généralement.
Justement, dans le processus d'institutionnalisation, il y avait des failles, là, on le voit souvent, c'était sur les dires de quelqu'un, on pouvait apporter une famille, ben, je ne veux pas le dire aussi simplement, là, mais c'est juste ça qui me vient en tête. On pouvait se débarrasser de quelqu'un en supposant des maladies mentales. Et ça a dû créer des débats, des tollés dans l'opinion publique. Comment on parle de ces hôpitaux psychiatriques au moment de la déshospitalisation dans les médias ou plus largement?
Les hôpitaux psychiatriques ont toujours eu une mauvaise... On a toujours une mauvaise opinion sur les hôpitaux psychiatriques pour la raison que vous venez de dire, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui étaient internés contre leur gré. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé. Ça, c'est très probablement arrivé. Puis, en effet, on pouvait être une femme à la fin du 19e siècle, puis avoir juste des ambitions de vivre une vie normale dans l'espace public. Puis son mari ou son frère ou son père n'était pas d'accord avec ça, puis on se retrouvait interné. Puis la structure même de l'asile, puis son fonctionnement faisait qu'on n'en sortait jamais. Après, il y a eu des cas comme ça, mais il y avait quand même un suivi. On n'était pas interné juste comme ça sur la demande d'un autre. Il fallait qu'il y ait des gens qui signent des papiers, notamment un médecin, selon les pays, des responsables gouvernementaux. Donc il y avait quand même un suivi là-dessus. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé, mais il faut peut-être sortir de l'idée selon laquelle l'asile, c'est que des gens qui n'avaient rien à y faire qui ont été mis. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, ça a permis de gérer une certaine partie de gens qui étaient hors normes. Et selon les normes, bah, des fois, c'était des gens peut-être plus normaux que ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, mais c'était pas non plus un endroit où on faisait juste envoyer les gens si simplement que ça, même si ça a dû arriver. Puis j'ai oublié votre question.
Ça répondait à ma question.
Parfait. Puis les congrégations religieuses étaient très impliquées en fait dans les asiles. C'est elles en fait qui administraient les institutions, mais justement quelle était peut-être plus largement leur rôle en fait dans ces institutions-là et puis leur impact aussi.
Au Québec en tout cas. Dans les deux institutions principales de Québec et de Montréal, elle faisait tout. Mmh. C'est-à-dire qu'elle ne faisait pas juste administrer, elle possédait la place, elle l'administrait et elle prenait soin des patients. Donc elle avait vraiment, à tous les niveaux de l'institution, c'est elle qui était en charge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de psychiatre, mais c'était des psychiatres qui étaient visiteurs, en fait, qui venaient quelques fois dans la semaine, au mieux. Et souvent, il y en avait un ou peut-être deux, peut-être plus un en formation parfois, pour des populations qui pouvaient aller dans les années 50, 1950, on parle de 5000 personnes, presque 6000 à Saint-Jean-de-Dieu. Donc un psychiatre ou deux pour 6000, on s'entend que c'est principalement les religieuses et les infirmières qui s'occupaient des patients.
Puis est-ce qu'il y avait une petite place pour les femmes laïques dans ce réseau-là?
Oui. Et oui et non. Oui, il y avait des femmes laïques parce qu'il y avait des femmes qui venaient en stage se pratiquer à l'hôpital. Il y avait des femmes qui ont pu intégrer les écoles d'infirmières qui étaient au sein de ces asiles-là un peu plus tardivement après leur création, notamment à Saint-Jean-de-Dieu. Elles n'ont pas tout de suite accepté des laïcs, mais il y en a eu ensuite. Puis il y a des travailleuses laïques qui ont de plus en plus émergé, notamment avec l'apparition des nouvelles professions d'accompagnement psychologique, de travail social, de ce qu'on appelle l'occupation thérapeutique, donc l'ergothérapie, etc. Donc avec la multiplication de ces professions-là, qui sont beaucoup des professions féminines, on va voir à partir de... C'est plus à partir des années 50-60, l'augmentation du nombre de femmes laïques dans ces institutions-là. Mais ça correspond aussi à un moment où on va demander aux infirmières, je dis demander, mais c'était un petit peu plus radical que ça, aux congrégations religieuses d'abandonner ces asiles-là pour que ce soit pris en charge par l'État.
Puis si en fait elles avaient une place aussi importante au Québec, est-ce que c'est la même chose dans l'espace francophone en fait en général?
Eh bien non, c'est ça, pas du tout. Alors en Belgique par exemple, oui. Le travail que Benoît Majerus a fait dans notre ouvrage, qui est un collègue de l'Université du Luxembourg qui travaille sur la Belgique, ce qu'il montre bien, lui, c'est qu'il y avait vraiment une importance des congrégations religieuses en Belgique. Et ce qui est intéressant pour l'historien, parce que les congrégations religieuses, elles gardent beaucoup de choses. Et donc, lui, il a aussi pu avoir accès à ces archives-là parce qu'elles étaient conservées par les congrégations religieuses. C'est un avantage aussi. Mais par exemple, en France, pas du tout. En France, la laïcisation des hôpitaux se ferait vraiment plus tôt. Et puis, la prise en charge des hôpitaux psychiatriques, des aliénés ou des malades mentaux ou des personnes atteintes de troubles de santé mentale dans ces hôpitaux-là, elle se fait d'une manière assez différente. Et c'est l'État qui va être à la manœuvre dès le départ pour la création de ces asiles-là. Il y a une loi de 1838 qui impose qu'il y ait des asiles un peu partout en France. Et donc, c'est l'État qui va mettre à contribution. Et bien sûr, parfois, il va récupérer des hôpitaux qui étaient gérés par des religieuses, mais ce n'est pas la majorité des cas. Donc, par exemple, c'est plus laïque, en un sens, dès le départ en France qu'au Québec ou qu'en Belgique.
Mais même sans la laïcité, la déshospitalisation est intimement liée au contexte politique. Comment est-ce que ça se passe au Québec?
Au Québec, on est en pleine révolution tranquille et ça participe vraiment de la révolution tranquille. En un sens, on pourrait presque dire que ça fait partie des premiers mouvements de la révolution tranquille, en fait, parce que la commission Bédard qui va donc décider ou qui va inviter le gouvernement Lesage à mettre sur pied une politique de désinstitutionnalisation psychiatrique, elle a lieu dès 1961 et la section spécifique du ministère qui est créée pour appliquer cette politique de désinstitutionnalisation, elle est mise en place dès 62. Donc, ça veut dire que dès 62, on est déjà dans une perspective, officiellement en tout cas, de désinstitutionnalisation. Donc on est vraiment dans les prémices de la révolution tranquille aussi. On est vraiment dans les hôpitaux, puis on le sait, la santé a été un des premiers chantiers du gouvernement Lesage. Mais les hôpitaux psychiatriques, ça a été particulièrement vite dans leur cas. Fait qu'en fait, la désinstitutionnalisation, c'est à l'avant-scène aussi de la révolution tranquille. C'est vraiment dans ce contexte-là de sécularisation, de laïcisation, de médicalisation, puis de vraiment de donner aux experts le pouvoir sur les institutions qui étaient autrefois à la charge des religieuses, que s'est passée aussi la désinstitutionnalisation psychiatrique au Québec.
Puis est-ce que ça peut aussi avoir eu des liens avec les enjeux linguistiques?
Oui, tout à fait, parce que dans le cas de la politique québécoise, elle a quand même été très, très influencée, cette politique québécoise, par des acteurs psychiatres francophones qui voulaient valoriser, rénover, faire grandir la psychiatrie francophone. Parce que la psychiatrie francophone avait, selon les dires de l'époque, un certain retard vis-à-vis de la psychiatrie anglophone. Mmh. Notamment l'équipe de McGill qui était assez en avant là-dessus. Même si, quand on regarde dans les textes, c'était pas si évident que ça, le retard. Mais le retard a beaucoup été mis en avant pour valoriser une transformation des politiques publiques et pour favoriser le développement de la psychiatrie francophone. Donc en effet, il y avait des enjeux linguistiques parce que l'idée, par exemple, de Camille Lorrain, qui est vraiment un personnage central de cette révolution psychiatrique-là et qui l'est d'autant plus qu'il y a d'autant plus des enjeux de santé mentale, de politique linguistique, que ça va être le père de la loi 101 quelques années plus tard en tant que député. Donc Camille Lorrain, lui, dès le départ, il va mettre l'accent là-dessus en disant la prise en charge psychiatrique, il faut la changer parce que c'est surtout les francophones qui en pâtissent. Rapport à la gestion différente que les anglophones ont de leur asile par rapport aux asiles francophones. Donc oui, il y a une très importante part linguistique là-dedans.
Et qui dit appel au changement pendant la Révolution tranquille dit commission d'enquête.
Exactement.
Donc pour les hôpitaux, ce sera la commission Bédard. Parlez-nous-en, s'il vous plaît.
Oui, donc en 1961, en fait, en août 1961, il y a un livre qui paraît aux éditions du jour qui s'appelle « Les fous crient au secours », qui est signé Jean-Charles Paget. Jean-Charles Paget, c'est un malade qui a eu des problèmes avec l'alcool et qui s'est retrouvé interné pendant quelques mois dans l'asile de Saint-Jean-de-Dieu, donc qui est le plus gros asile du Québec à ce moment-là, qui est à Montréal. Et il écrit un ouvrage pour témoigner de cet internement-là, et un ouvrage qui est vraiment critique, donc qui décrit des conditions indignes de prise en charge, qui est très critique vis-à-vis des religieuses, qui est très critique de ce qui a été vécu. Et cet ouvrage-là, il est post-facé, donc il y a une préface à la fin, de Camille Lorrain, qui fait une grande page politique pour dire « il faut changer tout ça ». C'est édité aux éditions du jour, qui sont aussi des éditions très militantes à ce moment-là. Et donc, quand cet ouvrage-là paraît, il y a une espèce de soulèvement de la population parce que Camille Lorrain et les éditions du jour se sont arrangés aussi pour que ce livre soulève les foules un petit peu. Donc, c'est repris par les syndicats, c'est repris par un certain nombre de personnes. Et il va y avoir une demande assez forte de l'opinion publique pour que le gouvernement agisse, Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il met une commission d'enquête en place, évidemment, donc qui s'appelle la commission Bédard, parce qu'elle est dirigée par Dominique Bédard, un psychiatre de Québec, auquel s'adjoint Denis Lazure, qui est un pédopsychiatre de Montréal, qui sera aussi un politicien plus tard, et donc le fameux Charles Roberts, l'anglophone de la gang.
Des services.
Et donc ces trois hommes-là ont pour mission d'aller enquêter dans toutes les institutions psychiatriques du Québec, grandes et petites, et aussi les institutions de déficience mentale, pas seulement les asiles, et de faire un état des lieux. Et six mois plus, donc ça c'est en septembre 61, en mars 62, le rapport est sur la table du ministre, six mois plus tard, jour pour jour, et en gros il dit tout ce qui n'est pas géré par les religieux, c'est ça va, tout ce qui est géré par les religieux, ça va pas du tout, il faut tout changer. C'est un petit peu caricatural, mais le gros du message est là, plus il faut donner plus d'argent à la psychiatrie et il faut former plus de psychiatres. C'est ça le message de la commission Bédard. Et ce que fait le gouvernement Le Sage, très simplement, c'est qu'il prend les trois mêmes personnes de la commission, puis il leur donne des postes au ministère, il leur dit « appliquez vos propres recommandations ». Et là, il va y avoir tout un travail pour transformer la prise en charge institution par institution, pour transformer les règles de prise en charge, pour mettre en place des expérimentations nouvelles sur la prise en charge de la maladie mentale. Et c'est là que s'engage véritablement ce qu'on appelle au Québec la politique de désinstitutionnalisation.
Puis on pourrait peut-être en parler un peu quand même. Le livre, justement, les fous...
Les fous crient au secours.
Les fous crient au secours. Ouais. En fait, est-ce que justement ce mouvement-là était légitime dans le sens où, tu sais, ce qu'il dénonçait, en fait, est-ce que c'était réel? Toute la critique, en fait, sur les communautés religieuses et tout.
Moi, je suis historien, je suis pas là pour trancher. Je veux pas remettre la parole de personne en question, dans le sens où ce que Jean-Charles Pagé a vécu et ce qu'il a raconté dans son livre.
Toutes les critiques en fait qui ont découlé de ça, est-ce qu'il était légitime?
Toute critique est légitime. Toute critique est légitime. Celle de Jean-Charles Pagé l'était. Est-ce qu'elle était exacerbée? Est-ce qu'elle servait un agenda? Certainement. Après, oui, elle était très certainement vraie. C'est possible qu'il ait vécu des choses un peu difficiles ou qu'il se soit senti un peu maltraité dans cette institution-là. Mon idée, c'est pas de dire les religieuses étaient parfaites et puis l'institution était parfaite. C'était une grosse institution, il y avait 6000 personnes. On accueillait des gens dans des conditions avec pas beaucoup d'argent non plus. C'était difficile, c'est sûr que c'était difficile. Une chose est sûre, cette publication-là, elle servait dès le départ un agenda. C'était pas la première publication des éditions du jour à vouloir faire scandale. On connaît tous le livre du frère Intel qui a aussi fait qui racontait des choses vraies, encore une fois, mais qui a servi aussi à transformer des choses. Juste avant le livre de Jean-Charles Pagé, les éditions du jour ont publié un livre sur la prison de Bordeaux qui avait un peu le même, ce qui s'appelait Scandale à Bordeaux, qui avait un peu la même ambition, c'est-à-dire on révèle des choses pour que ça change. Alors ça a moins bien marché dans le cas de Bordeaux, mais ça a très bien marché dans le cas de Jean-Charles Pagé parce qu'il était soutenu par Camille Lorrain et parce que Camille Lorrain, lui, ça faisait plusieurs années qu'il travaillait fort de son côté pour faire changer les choses. Donc c'est aussi pour Camille Lorrain, ça a été un levier, ce livre-là, le levier dont il avait besoin pour mobiliser l'opinion publique, sachant que lui avait déjà de son côté mobilisé à la fois les élites, à la fois les médecins, etc., pour que ça change. Donc, je suis qui pour remettre en question ce que dit Jean-Charles Pagé? J'y étais pas et je ne peux que je suis le premier à dire qu'il faut croire ce que disent les patients. Je dirais, s'il l'a vécu comme ça et qu'il leur raconte comme ça, c'est que c'est vrai. Et je ne vais pas remettre ça en question. Après, est-ce que ça participait de faire un coup politique pour Camille Lorrain et pour les éditions du jour? Oui.
Puis si on va au niveau des impacts de la commission Bédard, est-ce que les fameux commissaires ont finalement appliqué les recommandations qu'ils avaient faites dans le rapport de la commission?
Ils ont travaillé fort, quand même. Dans un premier temps, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont faites. On a vu une augmentation du financement pour les hôpitaux. Il y a eu de la rénovation dans certains hôpitaux. On a changé les directions de plusieurs hôpitaux également, notamment pour mettre des laïcs à la place des religieux ou des religieuses. On a aussi beaucoup investi dans la formation des psychiatres, parce qu'un des problèmes, c'est que, notamment pour les francophones, c'est qu'il n'y avait pas de formation psychiatrique francophone au complet en français encore, à l'Université de Montréal. Fait que les psychiatres devaient forcément aller se former à l'étranger, quand ils étaient francophones, et non pas quand ils étaient anglophones. Donc l'étranger, ça voulait dire soit McGill, soit l'Europe ou les États-Unis. Mais dans tous les cas, on ne pouvait pas avoir une quelque chose en français, complètement une formation. Donc, il y a aussi eu de l'investissement là-dedans, d'avoir plus de cours, de créer un vrai département de psychiatrie à l'Université de Montréal, de créer une vraie formation, un certificat complet en psychiatrie pour que les gens puissent faire toute leur psychiatrie en français. Et donc, oui, on a vu très, très rapidement le nombre de psychiatres augmenter, ce qui était quand même une des demandes des commissaires, puis qui était une réalité. Il n'y avait pas beaucoup de psychiatres, il y avait beaucoup de gens à traiter. Donc, on a vu ça, on a vu des transformations effectives, oui, tout à fait, au moins dans les années 60.
Puis peut-être quelques dernières questions pour conclure. Justement, si on revient vers l'ouvrage en soi que vous avez publié, peut-être quels sont en fait les différents apports que votre étude sur les espaces francophones, qu'est-ce qu'ils apportent en fait cette étude-là d'espaces francophones vis-à-vis peut-être les autres qui ont été faites par d'autres historiens?
Ben, nous, notre ouvrage tient dans le point d'interrogation du titre. La fin de l'asile, point d'interrogation. Donc c'est ironique, évidemment, ça veut dire non. Il n'y a pas eu vraiment de fin de l'asile. Et donc tout notre travail, ça a été de montrer ça. Ça a été de dire que l'historiographie traditionnelle a rompu l'histoire de la psychiatrie au XXe siècle en deux parties. Il y avait la partie des asiles et il y a eu la partie après les asiles, la désinstitutionnalisation. Puis nous, ce qu'on a montré, c'est que c'était beaucoup plus compliqué que ça. À la fois parce que la désinstitutionnalisation en tant que telle n'avait jamais eu lieu. C'est ce qu'on a appelé le mythe de la désinstitutionnalisation. C'est un mythe, il n'y a jamais eu de désinstitutionnalisation. Il y a eu une déshospitalisation. On a fait sortir des gens des asiles et des grands hôpitaux, mais souvent pour les mettre dans des parcours de soins qui les mènent au contraire d'institution en institution. Et en plus dans des parcours de soins où ils sont moins suivis et où ils sont plus laissés à eux-mêmes. Donc on a montré ça. Et on a aussi montré surtout que la période avant les politiques de désinstitutionnalisation était déjà riche d'exemples et de pratiques, de mise en pratique de démarches de désinstitutionnalisation. On voit les religieuses à Saint-Jean-de-Dieu qui, dès 1909, mettent en place des sorties à l'essai pour essayer de faire sortir les patients au maximum. On voit en Belgique, l'ouvrage s'ouvre sur cet article-là de Haute Fauvel, on voit en Belgique des colonies de patients. Donc c'est un village au complet à Guil qui accueille des malades mentaux de manière libre dans le village. Les gens sont accueillis chez les gens. Il n'y a pas d'institution. Ils sont accueillis chez les gens et ça fait depuis des centaines d'années et ça fonctionne assez bien. Donc voilà, c'est toutes ces étapes-là de dire à la fois il n'y a pas eu... À la fois la désinstitutionnalisation était déjà présente dans le mouvement même d'institutionnalisation parce que dès le départ on l'a critiqué, dès le départ on a essayé de faire autrement. Le moment qu'on a appelé la désinstitutionnalisation n'a jamais existé. Ça a été une volonté, ça a été un idéal, vous l'avez très bien dit, qui n'a jamais été vraiment mené à bout et qui n'a conduit que à des hospitalisations. Puis ces deux éléments-là nous permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est à la fois ce qui se passe de pourquoi on a des gens dans la rue qui ont des problèmes de santé mentaux et qui n'ont pas d'accès aux soins, et à la fois pourquoi une des réponses qu'on peut trouver aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est peut-être de les réinterner un petit peu de manière radicale. Parce qu'il y a quelque chose de non accompli dans cette histoire de la désinstitutionnalisation psychiatrique. Je pense que ça, c'est un des apports de l'ouvrage.
Et brièvement, avez-vous des pistes de recherche, des enjeux qui n'ont pas encore été utilisés dans l'historiographie, par exemple, pour les jeunes chercheurs, chercheuses qui cherchent un sujet de maîtrise ou de doctorat?
Dans la psychiatrie en général, il y en a beaucoup, mais dans le cas particulier de la désinstitutionnalisation psychiatrique, moi, il y a au moins deux éléments qui manquent, qui m'ont frappé à la suite de la réalisation de l'ouvrage, c'est que je pense qu'on n'a pas assez mis l'accent sur un certain nombre de soignants et de soignantes qui œuvraient déjà et qui faisaient des démarches, puis qu'on aurait pu plus mettre en valeur. Je pense évidemment aux infirmières psychiatriques parce qu'en fait, c'est le projet que nous, on poursuit maintenant. Donc, c'est une des voies par lesquelles on essaie de poursuivre. Puis, un des autres grands moments qu'on a complètement ignoré dans cet ouvrage-là, alors que pour l'instant, il est essentiel, en fait, dans la question de la désinstitutionnalisation, c'est toute la question du mouvement d'hygiène mentale. Le mouvement d'hygiène mentale, il fait vraiment cette charnière entre le moment de l'institutionnalisation dans le 19e siècle, début du 20e siècle, et ce moment de la désinstitutionnalisation dans les années 60. Il arrive dans l'entre-deux-guerres et il dit qu'il faut faire les choses autrement. Et ça, on est un peu passé à côté.
C'est des belles pistes de recherche qui vont sûrement être investies dans les prochaines années. En tout cas, je le souhaite. Mais c'est ce qui conclut notre passionnante émission avec Alexandre Klein. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci aussi à Myriam de m'avoir accompagnée dans l'animation.
Merci Julie.
Pour ceux et celles qui voudraient réécouter l'émission ou la diffuser dans vos réseaux, le lien de la balado va être mis sur notre page Facebook et sur Twitter dès demain. Et on se laisse sur une dernière chanson, la chanson Sainte-Anne de Fauve. Merci et à la semaine prochaine.
Je sais même pas par où commencer en fait. En même temps, c'est la première fois que je fais ça, donc vous m'excuserez si ça part un petit peu dans tous les sens ou si je suis trop confus. Faut dire qu'en ce moment, j'ai bien du mal à mettre mes idées au clair quand même. J'ai bien du mal à trouver mes mots. Enfin voilà, je vous dresse le tableau vite fait. Je suis né dans une famille plutôt aisée, j'ai toujours été privilégié. J'ai jamais manqué d'amour ni de rien d'autre d'ailleurs, même si ma mère, qui vient quand même d'un milieu assez populaire, était parfois un peu sévère avec mes frères et moi. À l'école, j'étais bon élève, à la maison, j'étais poli. Je me souviens pas avoir fait trop de conneries étant petit. Par contre, j'ai fait des études correctes et aujourd'hui, je sais que mon parcours est plus ou moins tracé. Disons que je sais où j'arriverai si je continue sur ma lancée. J'aurai probablement une femme et de beaux enfants, un crédit à payer, un épagneul anglais et un coupé cabriolet. Et pourtant, vous voyez, ça fait maintenant presque 6 mois que je dors à peine, que je peux ne rien bouffer pendant 2 jours sans même m'en apercevoir. Et quand je me regarde dans le miroir, j'y vois un mec bizarre, pâle, translucide, tellement livide, à faire sourire un génocide. Docteur, je rigole pas. Faut que vous fassiez quelque chose pour moi, n'importe quoi. Prenez un marteau et pétez-moi les doigts, je sais pas. Parce que là, je peux vraiment plus. Je peux plus sortir dans la rue, je peux plus mettre les pieds dans des bureaux. De toute façon, je suis devenu incapable de prendre le métro. Ça pue la mort, ça pue la pisse. Ça me rend claustro et agressif. Et puis j'ai vraiment l'air d'un gland dans mon costard trop grand et mal taillé. Que même si je voulais faire semblant, il y aurait toujours marqué en gros troufion sur mon front. Et puis tous ces gens qui cherchent absolument à s'entasser, qui poussent, qui suent, qui sifflent entre leurs dents comme des serpents. Vas-y, du coup, monte, t'as raison. De toute façon, t'auras beau être le premier arrivé, à la clé, on va tous se taper la même journée scabreuse. Les yeux collés à l'écran de l'ordinateur, tu détruis les pupilles, à lire en diagonale des choses auxquelles t'entraves que dalle. Non mais tu comprends, il est hyper important ce dossier. Le client ira que 300 euros de l'heure, alors tu te débrouilles, tu vas chercher sur Google s'il faut, mais tu me finis ça pronto. Ah oui, vous avez parfaitement raison, oui. C'est de ma faute, oui. Je suis pas assez réactif. Ah, c'est drôle, oui. Collez-moi des gifles. Connard. Et si t'allais plutôt te carrer des poignées de porte dans le cul pour voir?
Déjeuner des salades composées à 12 euros ou de la barbac en carton mouillé, de manger sur un coin de table, puis de passer des après-midi minables à enculer les mouches et finir par embrayer sur des after-work entre collègues. Mais quel cafard, à croire qu'on aime tellement se faire enfler la journée qu'on en redemande le soir. Mais bon, faut dire aussi qu'on y rencontre des meufs, ou plutôt des célibatantes, c'est-à-dire des nanas qui, comme nous, ont des problèmes affectifs. On se présente, on leur raconte des cracks, on leur dit qu'on est collab alors qu'on est à la fac, et qu'en vrai, on passe notre temps à user nos culs sur des bancs trop étroits, à écouter des types chauves déblatérer toute la journée, déblatérer sur tout et surtout sur n'importe quoi. Heureusement, nos journées se finissent toujours de la même façon. On rentre et on se fait beau pour la soirée, on met nos polos col relevés, puis on se retrouve au QG pour picoler des demi à 5 euros. D'ailleurs, quand on a un peu de plomb dans l'aile, on a souvent envie de jouer aux rebelles et de crier au taulier. Dis donc, tu prends pour qui, enfoiré? Tu trouves pas que ta bière, elle est un peu chère? On le ferait si on avait un peu de cran dans nos artères, mais on préfère se taire et continuer à gaspiller notre thune, à user notre salive pour pas grand-chose et à fumer comme des sapeurs. Histoire de s'amocher à fond avant d'être vieux, d'agrandir les valoches qu'on a déjà sous les yeux. À part ça, on parle surtout des filles qu'on a vues sur le net, et puis de celles qu'on aimerait attraper en soirée, car ce soir, comme tous les soirs, on va essayer de niquer. Mais surtout pas de faire l'amour, parce que l'amour, c'est pour les pédés. Rien de bien choquant finalement. Des gars qui parlent des filles qui baissent pour dire qu'elles baissent, la baise. On en garde souvent que des regrets, parfois des maladies. Au fond, on fait ça sans plaisir, sans réelle envie. C'est surtout pour ne plus penser. Ça cache des plaies à vif, mais ça c'est un secret. En vérité, on est perdu, désœuvré, désabusé, seul comme des animaux blessés. On est triste et nos cœurs saignent, mais on se cache derrière nos grandes gueules et nos mots durs. Entre nous, on s'appelle mec, meuf, bâtard, baltringue, bitch, guinasse, connard. Parce que sans le vouloir, les autres sont un combat permanent. Décidément, docteur, on vit une chouette époque, et dans une chouette ville aussi. Paris, Paris la nécropole, Paris qui sent la carne, Paris qui petit à petit entraîne dans sa chute des fragments de nos vies. Paris c'est tellement sain et nous sommes des gens bien, tellement bien qu'on est trop bien pour nos voisins auxquels on prête pas plus d'attention qu'à la pisse derrière la cuvette des chiottes. Parfois j'ai juste envie de hurler, t'approches pas de moi, me touche pas, t'approches pas de moi. Docteur il me faut un truc, n'importe quoi sinon je vais craquer, et je risque de cogner une vieille, un passant, un mioche.